Nous voulons nous tourner plus amplement encore vers sa parole. Et je vous invite tout simplement à prendre votre Bible, si vous l'avez, ou au moins votre smartphone avec l'application que vous préférez, pour aller regarder le livre de Daniel, du prophète Daniel, et de l'ouvrir au chapitre 3. On va lire même tout le chapitre. C'est une belle histoire, une histoire qui prend aux tripes, une histoire qui fait suite à un songe que Daniel a eu à propos d'une statue un peu étrange, très solide et prestigieuse en haut, et puis un peu plus fragile en bas, et qui viendra à chuter. Bon bref, je ne parle pas de ce texte-là, puisque nous nous intéressons vraiment au chapitre 3 du livre de Daniel, de ce cher prophète qui vécut en exil, sous le règne d'un empereur, d'un roi, qui pouvait quand même impressionner. Alors, j'espère que vous y êtes. Lisons et écoutons sa parole. Le roi Nabuchodonosor fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Puis il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait fait dresser. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et de tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue que le roi Nabuchodonosor avait érigée et se tinrent debout face à la statue élevée par le roi. Un hérault proclama à voix forte « À vous, peuples, nations et hommes, de toutes langues, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre et de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait ériger et vous l'adorerez. Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. » C'est pourquoi au moment où tous les gens entendirent le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, ces hommes de tous les peuples, de toutes les nations et de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor avait fait ériger. Sur ces entrefaites, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Juifs. Ils s'adressèrent au roi Nabuchodonosor et lui dirent « Que le roi vive éternellement. Ô roi, sa majesté a promulgué un édit ordonnant que tout homme se prosterne et adore la statue d'or dès qu'ils entendraient le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique. Cet édit précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. Or, il y a des hommes de Juda auquel tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego, ces hommes-là ne t'ont pas obéi, ô roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Alors Nabuchodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego et on les amena donc devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda « Est-il vrai ?» Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai fait ériger. Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où j'entendrai le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains ? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. « Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux, et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego, et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter solidement Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise, ardemment chauffée. Aussitôt, les trois hommes furent ligotés, tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, et jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Mais comme sur l'ordre du roi on avait fait chauffer la fournaise au maximum, les flammes qui en jaillissaient firent périr les soldats qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les trois ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers, il demanda « N'avons-nous pas jeté trois hommes tous ligotés dans le feu ?» Ils répondirent au roi, « Bien sûr, majesté. »« Eh bien, reprit le roi, je vois quatre hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Et le quatrième a l'aspect d'un fils des dieux. » Puis Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et se mit à crier. « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez ici !» Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers du roi se rassemblèrent pour examiner ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Alors Nabuchodonosor s'écria « Loué soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Voici donc ce que je décrète. Tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qu'il parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas de décombres, parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Bon, j'arrête là mon récit, je laisse les quelques versets puisqu'il démarre autre chose. Venons-en donc à reprendre un peu ce texte et à le méditer tous ensemble. Dans ce texte, il y a quelque chose de splendide, de grandiose, une statue. Une statue impériale et majestueuse, et elle en jette. Ah, est-ce que j'ai la main sur le diaporama, Mathieu ? Je peux juste avoir la première où on voit la statue, s'il te plaît, et après, passer la main. Voilà, ça sera la suivante. Voilà, juste pour l'illustration. Une statue dressée par et pour le roi, réalisée bien sûr à son effigie. Ça existe encore hein, de temps en temps dans quelques lieux du monde. Haute de 30 mètres, comme le dit le texte, et imaginez-vous quand même une statue toute au moins bariolée d'or. Je ne sais pas si elle était 100% faite d'or ou au moins plaquée d'or, mais quand même, ça doit en jeter. Même Louis XIV, je ne suis pas sûr qu'il arrivait à faire quelque chose d'aussi imposant, quoique. Imaginez-vous cette statue, tel un immeuble de 10 étages à peu près, toute d'or rayonnante, elle trône dans cette vallée de Doura, dans la province de Babylone, d'où il est impossible de ne pas la voir ou de l'ignorer. C'est tout plat, hein. C'est comme dans certaines régions du monde, en Côte d'Ivoire, là, quand vous avancez vers la plaine ou le plateau de Yamoussoukro, là, pour ceux qui connaissent, vous voyez cette copie de la basilique Saint-Pierre, là, qui est plus grande, on la voit à des kilomètres à la ronde, hein. On ne peut pas la louper. En plus, autour, il y a, je crois, c'est des plantes bananes ou des trucs comme ça, donc c'est rare, et au milieu, un truc énorme que l'on voit à des dizaines de kilomètres de là. On ne peut pas l'ignorer. Ben, il en est ainsi de ce qu'avait fait ce cher roi. Surtout ne pas l'oublier. Voyez comment je suis là et que je vous vois. Tel un dieu. Pourquoi cette statue ? Difficile d'y répondre. Bien que d'autres despotes, tyrans et tout ce qu'on veut, aient usé aussi de ces mêmes artifices pour imposer leur grandeur à tout un peuple et parfois même au monde. Et ça existe encore. Je pense qu'en Corée du Nord, parfois il y a eu en Irak aussi ce genre de choses, et ailleurs, et certainement en France aussi, il fut un temps. Imaginez-vous cela. Notre actualité témoigne de ce genre de témoignage encore aujourd'hui, dans ces différentes régions du monde. Une statue d'envergure, 30 mètres, mais surtout, plus que la statue, un ordre impérieux. toutes les pontes du royaume, tous les gens les plus importants, administrateurs, etc., je ne vais pas vous faire la liste, elle revient souvent, on l'a bien entendu, sont invités à une sorte de gigantesque meeting politique destiné à une seule chose, non pas à l'inauguration de la statue, ça c'est pipé, mais sont invités à glorifier son leader, leur chef, leur roi, de l'élever même au-dessus de tout homme, car c'est là l'envergure souhaitée. Et pour exalter la grandeur et la souveraineté du roi, l'ordre est ainsi donné de se prosterner devant cette icône solaire même. On peut l'imaginer, l'éclat, dans un pays où le soleil est souvent présent, toute faite d'or, elle ne peut que étinceler, et de l'adorer littéralement tel un dieu. Sous peine, selon la coutume de l'époque, ce n'était pas unique, d'être jeté dans une fournaise ardente, une sorte de grande four à métal, ouvert par le haut et chauffé à bloc, dans lequel on jetait les récalcitrants, les opposants politiques, tout comme on jetait aussi les ennemis du régime aux crocodiles en Égypte, comme on peut le voir par exemple chez Astérix, pour ceux qui ont lu la BD. Astérix et Cléopâtre, je crois. Ou même vu le film, puisqu'on le revoit un peu, je crois, dans le film. Alors évidemment, avec de tels arguments, tout le royaume s'exécute dans une hypocrisie générale. On ne vous laisse pas trop le choix, en fait. Hein. Prosternez-vous, ou sinon brûlez. Bon, bah, on le fait, quoi, a priori. Tout le monde ? Pas tout à fait. Il y a quand même quelques irréductibles. Alors, ce ne sont pas tout à fait ceux-là, mais ceux-là, je pense, pour quelques-uns, vous les connaissez. Eux aussi, ce sont d'autres irréductibles, mais juste des personnages fictifs. Il y a des irréductibles, pardon, des gens qui résistent, encore et toujours. Et au nom de leur foi, pardon, j'essaie juste de passer à rien du tout, pour ne pas trop vous distraire quand même, au nom de leur foi dans le Dieu d'Israël, les amis de Daniel, eux qui avaient reçu la responsabilité de très envier d'administrer la province de Babylone, dans les fonctions et les responsabilités données, Shadrach, Meshach et Abednego, on connaît bien leurs prénoms, hein, ils reviennent, vont rester debout et ne jamais se prosterner. Et on les imagine sans difficulté ne pas fléchir le genou en étant pleinement conscients de la menace qui pèse désormais sur eux. Ils défient le roi. Et ils savent quelle est la conséquence de cela. Mais on peut imaginer que quand ils le font, qu'ils ne plient pas le genou, ils ont aussi, je le crois, cette parole au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils se répètent ou auquel au moins ils s'attachent et s'accrochent. Cette parole qui dit ceci. Alors je ne sais pas, oui, c'est pas très grand en fait. Je ne sais pas si vous le direz, mais je vous le lis. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Cette parole que nous voyons dans Exode 20, qui fait partie du décalogue, de ses commandements principaux, qui disait la foi de tout Hébreu. On imagine aussi et sans difficulté le roi, et on l'entend là, dans tous ses états ivres de colère et tellement peu habitué, au fond, à voir en face de lui quelques gars de cette trempe, des gars capables de lui résister, à lui, le plus puissant homme, on allait dire, de tous les temps, au moins jusque-là, de résister à sa folie, des gars intègres, des hommes capables de lui tenir tête et de lui dire non. De lui dire, là, tu vas trop loin. Là, je n'irai pas avec toi. Ma foi m'interdit de te suivre dans tes propos ou de suivre ton ordre, quoi qu'il m'en coûte. Je ne pense pas qu'il l'ait dit tout à fait comme ça, on les a entendus. Et j'ai une réponse que j'apprécie beaucoup et qu'on va entendre tout à l'heure. Et on touche là, dans l'attitude, dans la manière dont s'expriment Shadrach, Meshach et Abednego, on touche là, il me semble, au cœur de tout ce récit de Daniel 3. Je vais peut-être en surprendre quelques-uns parmi vous, j'espère pas trop, en disant que c'est là tout le cœur du chapitre, et non pas la délivrance miraculeuse qui va être opérée plus tard. Le fait qu'ils ne soient pas brûlés, qu'ils ne sentent même pas le fumé. Ils n'ont même pas l'odeur d'une saucisse fumée sur eux, quoi. C'est fou. Bon, ça, c'est presque rien à côté du fait qu'ils soient encore vivants, que même pas un cheveu n'est brûlé. On sait à quel point un cheveu brûle si vite. Mais non, ce n'est pas cette délivrance miraculeuse qui est vraiment la pointe du récit, ce qu'il faudrait retenir. Ça n'est pas là. Bien sûr, cette délivrance est remarquable, mais elle n'est pas forcément systématique si on applique ce récit de foi à nos vies, et on le verra tout à l'heure. Non, le cœur de ce chapitre est l'exemple lumineux, tellement inspirant de ces hommes, donné là pour nous faire grandir dans notre foi. L'exemple de ces hommes prêts à aller jusqu'au bout. Ces hommes qui ont su rester debout lorsque l'épreuve se fit plus ardente. L'exemple de ces hommes qui ont su dire non, qui ont refusé de se courber, de se laisser piétiner face aux puissances d'asservissement, ici incarnées par un roi, par un personnage politique complètement fou. Notez que la façon dont est pensé ce récit, la manière dont il est rédigé, construit, structuré, pour que nous puissions le découvrir, même si peut-être nous le percevons moins aujourd'hui, pointe vers une chose, vers l'intégrité de nos trois camarades, de ces trois personnages, vers leur cœur indéfectible et complètement, tout entièrement consacré à Dieu. C'est cela que tout ce récit veut montrer absolument plus que tout. En effet, tout le récit pointe vers cela, et cela peut s'entendre si on connaît un tout petit peu la culture hébraïque. Et je vais vous le montrer après. La manière dont ils structurent parfois leur récit, voire assez souvent, surtout pour dire « c'est ça que je veux vous dire », ils le font d'une manière qui s'appelle, alors c'est le grand mot, ne le retenez pas forcément, il n'a pas d'importance en lui-même, un chiasme. Qu'est-ce qu'un chiasme ? C'est-à-dire que le récit est construit de manière parallèle. Il y a un élément du récit que je place là et un autre ici. Et ils se font écho. Et encore deux autres éléments, etc., etc. Et je vous le montre un peu dans notre texte, comment ça fonctionne, pour que vous voyez pourquoi, ici, l'auteur veut nous dire que c'est ça le plus important et comment il nous le désigne. Dans les versets 1 à 7, vous arrivez à le lire, ça va ? Ouais, bon. Verset 1 à 7, je résume très simplement l'ordre du roi donné à tous les fonctionnaires et toutes les nations d'adorer sa statue. Ça résume à peu près ces versets-là. Beaucoup plus loin, vers la fin de notre récit, au verset 27 à 30, il y a le constat des fonctionnaires que tout est bien, qu'ils sont intacts. L'ordre du roi à toutes les nations de n'adorer aucun autre dieu que celui des Juifs. Et surtout avec les sanctions qui, tout d'un coup, seraient là pour celui qui ne veut pas ou qui manquerait de respect à ce dieu. La maison sera détruite, etc., etc. Deux bouts de récit qui se répondent, qui se font écho. Ils ne sont pas strictement identiques, mais ils se font bien écho. Je continue. Si on reprend un peu plus en amont, on voit dans les versets 8 à 12 la discussion du roi avec ses traîtres, ceux qui ont envie de balancer, là, ceux qui aimeraient récupérer leur place, les Chaldéens, qui accusent les Juifs de ne pas respecter ni le roi ni ses dieux. Versets 8 à 12. Si on va beaucoup plus loin dans le récit, mais un peu avant la fin, on voit qu'il y a une discussion du roi avec les conseillers au sujet des trois serviteurs du Dieu Très-Haut. Versets 24 à 26. Et là encore, ça répond, ça fonctionne plutôt bien. Je persévère et je continue, vous allez voir à quel point les Hébreux, quand ils rédigeaient très souvent leurs récits, pouvaient user de cela pour montrer où est le cœur du message. Et on y vient. Autre bout, qui se répond en parallèle, versets 13 à 15, le roi qui est furieux et qui ordonne aux trois hommes d'adorer sa propre statue. Juste en parallèle, un peu plus loin, le roi toujours furieux qui ordonne de jeter les trois dans la fournaise. Là, ça fonctionne très bien. On voit bien le parallèle. Et au milieu de tout ça, la pointe, ce qui est le cœur de tout ce récit de Daniel 3. Ce que l'auteur veut nous dire en jouant de tous ces parallèles, en disant « c'est ça que je veux que vous releviez quand vous entendez mon histoire, celle que je vous ai donnée. » Et là, au centre du récit, la réponse de nos trois hommes. C'est ça qui est le plus important. C'est ça que, quelque part, Daniel 3 veut mettre en lumière, en jouant de cet artifice, de ces parallèles qui, petit à petit, nous conduisent vers ce qui est essentiel et important. Bon, désolé d'avoir été un petit peu technique, mais je vais vous montrer comment, parfois, beaucoup de récits hébraïques fonctionnent. Et montrer à quel point, quand on entend l'hébreu, ou quand on voit comment c'est construit, qu'on devine ces parallèles, on se dit « Ah, il y a là quelque chose d'unique, et c'est ça que je dois peut-être méditer plus encore que tout le reste. » Récoutons alors cette pointe, ce cœur du récit, ces versets 16 à 18, qui est en fait la réponse à la question posée « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Ce roi un peu orgueilleux, voire franchement orgueilleux, qui se croit tel un dieu et qui ose défier tout autre dieu, surtout le leur. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar ceci. J'espère que vous arriverez à le lire. Ô Nabucodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. En gros, T'as rien à savoir. Ça te dépasse, mec. Bon, j'exagère, c'est pas tout à fait comme ça. Ils sont un peu plus respectueux que je ne le suis là. Mais ils lui font entendre cela quand même. Et je pense que ça doit déjà bien le déranger. Continuons d'écouter leur réponse. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, au roi, qui voit bien l'enjeu, hein, ils savent très bien que c'est le roi qui défie Dieu, qu'il nous délivre. On entend là leur foi. Mais ils n'ont pas dit « Dieu va nous délivrer », ils ont dit « si le Dieu que nous servons peut nous délivrer ». Ils savent qu'il peut le faire. Et je continue leur réponse, mais même, et c'est ça qui est intéressant, mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Voilà ce que tout l'auteur Daniel, à propos de ses amis, a voulu nous livrer. C'est ça le plus important dans tout ce récit. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce que l'on entend ? Plus que leurs propres paroles. Essayons de le résumer. C'est ce cœur intègre, sans compromission. On ne cherche pas à négocier, trouver une porte de sortie. Que Dieu nous appelle à rechercher et que l'on entend dans ce récit. Et cela, dans le concret de nos existences, dans les défis petits ou grands qui se présentent à nous, dans notre quotidien. Et non pas seulement quand la tyrannie, sous toutes ses formes, viendrait à surgir. Ce n'est pas dans des grands moments forts où tout d'un coup il faudrait se dire « là, je dois faire preuve de foi ». Non. Mais plus simplement quand vient l'épreuve. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, l'épreuve est là. Elle est forte, elle impressionne, mais c'est une épreuve. Elle aurait pu être tout autre et ils auraient pu avoir une réponse semblable. J'en suis persuadé, au vu de leur foi. Oui, quand viennent les épreuves, qu'elles soient d'ailleurs sous la forme de pression extérieure, comme ici, une pression forte, hein, on les menace de mort, et d'ailleurs ça va être exécuté, la sentence tombe. Mais ça peut être aussi sous des formes plus légères ou presque, sous forme de moquerie, de toute autre chose qui vienne de mon entourage, mes collègues, les gens avec qui je travaille, ceux que je croise dans la rue, bon bref, peu importe. Mais tout autre encore, toute autre épreuve, qui quelque part peut aussi entrer en résonance avec l'attitude de Shadrach, Meshach et Abednego, même si le contexte est plutôt de pressions extérieures, d'une violence qui leur est faite. Ça peut être encore sous le visage terrifiant de la maladie. Je crois que même là, par rapport à la maladie, ce texte veut nous parler. Je en parlerai. Mais voyez là le cœur du message. Comme le suggère cette pointe dans le récit, la leçon à retenir n'est pas que Dieu nous préservera nécessairement de l'épreuve, ou que nous ne souffririons jamais. Nous ne l'entendons pas chez ces trois serviteurs-là. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils savent simplement qu'ils vont être jetés dans la fournaise, ça oui, parce qu'ils savent ce que le roi va faire. Mais ils ne savent pas si Dieu va les délivrer ou si Dieu va permettre qu'ils meurent, mais qu'ils tiennent bon. Non. La leçon à retenir, et je me répète, désolé, mais n'est pas que Dieu nous préservera nécessairement de l'épreuve, ou que nous ne souffririons pas, ou que notre foi, si elle est vraie et suffisante, nous donnera la guérison à coup sûr. Il n'y a pas une relation magique. J'ai la foi, je ne peux que guérir. J'ai la foi, je ne pourrai mourir, etc., etc. J'exagère un peu le propos, mais ce n'est pas ce qu'il faut entendre. Non, là n'est pas la promesse certaine que Shadrach, Meshach et Abednego avaient déjà reçue comme une certitude, alors qu'ils faisaient face à leur meurtrier. C'est lui qui va vouloir qu'il meure. D'ailleurs, il fera même tuer ses serviteurs parce qu'ils vont brûler avec. La véritable promesse divine que nous offre ce récit est que Dieu lui-même, et retenez cela, car s'il y avait un titre à donner au message que j'essaye de vous donner là, c'est cela, c'est que Dieu lui-même nous tiendra dans l'épreuve. Je reste sur cette dernière diapo, mais je développe. Oui, Dieu nous tiendra debout face à l'épreuve. Il permettra et il sera, lui, debout avec nous, à nos côtés. Que ce soit dans la fournaise, qui ici, pour moi, dans nos vies, symbolise toute forme d'épreuve. Toutes ces choses extérieures que nous pouvons subir, des pressions qui veulent remettre en cause notre foi, mais toute forme aussi d'épreuve intérieure qui sont aussi des remises en cause de notre foi, ou qui vont chercher à la remettre. Et c'est exactement ce que font les compagnons de Daniel, en répondant de la sorte au roi, par ces quelques versets qui sont le cœur de ce récit, à leur manière, car ils lui disent, je retraduis, je change les mots, mais j'essaie d'exprimer ce qu'ils disent au roi. Nous assumerons coûte que coûte les décisions de notre foi. Notre foi nous dit, nous ne nous prosternerons pas devant toi. C'est tout. Dieu peut nous délivrer. Mais il fera, lui, le véritable souverain, lui qui possède ma vie, ce qu'il voudra. En attendant, je sais ce que j'ai à faire, moi. Lui demeurer fidèle et n'adorer que lui, rechercher la justice de son royaume. Je grossis le trait, mais ce qu'il renvoie au roi, c'est ça, dit dans d'autres mots. Et c'est ce que je crois le roi entend et ne lui plaît pas du tout. Chers frères et sœurs, il y a au cœur de ce récit, au cœur de l'Évangile même, très largement, une invitation audacieuse. Une invitation courageuse à ne pas courber l'échine devant et les puissances du mal et devant l'épreuve, quelle qu'elle soit. Ne pas courber l'échine devant toutes ces choses qui voudraient nous asservir. Et ce ne sont pas seulement des personnes, ce sont aussi des choses qui, au fond de nous, nous attirent et nous éloignent de Dieu. Nous feraient chuter avec elles, mais par la foi, résister quand il est nécessaire et quoi qu'il en coûte. Voilà encore pour résumer ce qu'il y a là dans ce récit. Or, des statues, je vous en ai montré une représentation possible de ce que devait être ce que Nabuchodonosor ou Nabucodonosor avait fait construire à son effigie en pleine vallée, là. Or, nous n'en voyons pas beaucoup aujourd'hui, de ce genre de statues-là, mais des statues, enfin, du moins ce que symbolise cette statue, l'épreuve qui nous est proposée, celle qui, quelque part, nous éprouve, celle qui nous invite normalement à plier le genou, ou à dire « je renonce en partie à ma foi, je fais une concession ». Ces statues auxquelles nous faisons face ne sont pas forcément aussi resplendissantes. Heureusement, sinon on serait dans un monde bling-bling, hein, il y aurait de l'or partout. Sauf si on aime ça. Et pourtant, nous les côtoyons au quotidien. Ces statues, les nôtres, celles qui, quelque part, sont ces épreuves qui nous invitent tout d'un coup à plier, à faire une incartade à notre foi, ou qui nous feraient flancher. Car elles nous placent devant un enjeu de foi, peu importe ce qu'elles sont. Ces statues peuvent être, je vais essayer d'en donner quelques exemples, la liste peut être allongée. Apprendre à dire non au péché dans nos vies. C'est vrai que c'est très flou dit comme ça. Peut-être tout simplement apprendre à refuser une habitude dans l'entreprise qui ne m'apparaît pas juste, pas honnête, pas loyale, pas droite. Peut-être d'une certaine manière tout aussi difficile que ce qu'ont vécu Shadrach, Meshach et Abednego. Quelque chose qui remet en cause votre foi. Et là où votre foi, quelque part, va être sollicitée et où vous aurez besoin de quelqu'un. Ça peut être encore de refuser un ordre à un patron qui nous demanderait de mentir ou de bricoler avec la loi au nom de l'intérêt de l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez vécu cela. Peut-être. Ça peut être encore apprendre à refuser la logique. Alors ça, c'est plus évident. On l'a certainement vécu, au moins étant petit, peut-être encore aujourd'hui. Apprendre à refuser la logique d'un groupe avec la pression qui se fait. Celle du groupe de copains qui ne fonce dans une direction, qui a envie de faire ceci, qui dit, viens, fais-le. Mais ça peut être bien après aussi. Ça peut être un cercle de collègues, un cercle professionnel, je ne sais quoi, qui vous invite à vivre un temps avec eux et qui, quelque part, touche à votre foi, devient épreuve à un moment donné. Ça peut être encore refuser telle ou telle façon de... Je vais vers des choses les plus infimes, celles qui nous sont peut-être les plus proches, en fait. Refuser telle ou telle façon de regarder ou de moquer quelqu'un, un gars, une fille, un homme, un vieillard, une petite mamie, je ne sais pas. Il est tellement facile de se moquer de cette personne-là, parce qu'elle est comme ça. Je n'ai pas envie de donner d'exemple, parce qu'on pourrait peut-être, tout d'un coup, se sentir beaucoup plus concerné qu'on ne le croit, même ici. Ou de regarder l'autre en le jugeant, en se disant, qu'est-ce que c'est que ça là? Regarde comment il est. Sans le dire, hein, juste là, au fond. Refuser de croire que, et là c'est dans un autre contexte, mais qu'on peut être la maladie ou la souffrance, ça peut être psychique, ça peut être physique, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, refuser de croire que Dieu tout d'un coup m'aurait abandonné parce que je suis grièvement souffrant, malade. D'imaginer que, parce que tout d'un coup je sens cette solitude, je sens la souffrance, je n'entends plus Dieu, qu'il ne m'aimerait plus. Dieu m'a abandonné. Il me laisse souffrir. De croire qu'il n'est point à mes côtés quand je passe par des vallées sombres, pas forcément la vallée de la mort. Pourquoi pas? Je l'ai dit, je ne fais pas une liste ultime, je ne peux pas tout mettre. Il y a tant d'exemples différents. J'essaie d'en tresser quelques grandes lignes, dans lesquelles peut-être vous êtes retrouvés un peu. Mais ce sont là ces statues, celles qui quelque part vont nous faire face, soit au plus profond de nous, soit extérieurement, mais quelque part vont tout d'un coup heurter notre foi. Et bien heureusement, nous avons ces trois hommes, ces trois compagnons, ces trois amis qui ne se sont pas tirés seuls. Parce que on pourrait se poser la question, ils ont quand même c'est pas du culot, hein. J'allais dire un gros mot, je vais éviter, mais ils sont costauds les gaillards là, faire face à ce roi-là, là. Oser lui dire ça. Alors que le roi est très clair, hein, il ne joue pas de nuances en disant « oui, mais peut-être que, bon, allez, je vais vous écouter, vous avez peut-être un truc à... qui vous excuse ». Non, c'est soit ça, soit vous mourrez. Et c'est direct en plus, avec lui on sent très bien que c'est dans l'immédiat, hein, ça va se jouer. Le monsieur, ce roi-là, veut montrer sa toute-puissance, il ne veut pas jouer de compromis, ce serait déjà quelque part s'abaisser. Est-ce que dans les enjeux qui nous font face, dans les enjeux où notre foi parfois est tiraillée, interpellée, est-ce qu'on a toujours cette trempe? L'audace de dire non, c'est pas forcément un non hein, d'ailleurs, hein, mais à l'image des autres exemples que je vous ai donnés, mais résumons-le comme ça. L'audace de dire non dans ces situations différentes, mais que je viendrai à rencontrer, ou que j'ai déjà rencontré. De rechercher en toute chose à se comporter tel que Jésus l'aurait fait. C'est pas toujours facile cela. C'est plus simple de faire comme la foule, qui au tout début de notre récit est convié à venir devant la statue, un peu, hein, je vous ai dit, comme un grand meeting politique. Genre, pour ceux qui ont vu des documentaires là, sur Nuremberg, là, du temps des années 30 avec Hitler, là, qui était sur un grand trône, etc., tout est mis en scène, hein, avec des rangées de soldats, là, de gens en chemise noire. Oula, j'aurais pas dû. Désolé, hein, je me rends compte, je dis un truc et je me fais peur moi-même. Ça n'a rien à voir, vous inquiétez pas. Mais là, le choix n'est pas donné non plus. Tous s'exécutent. Et quand un petit bonhomme, là, avec sa moustache, fait un geste, tout le monde s'exécute. Même si tout d'un coup, on commence à hésiter. Non, non, on s'exécute. C'est beaucoup plus simple, en général, de faire comme la foule, servile, bien hypocrite. Parce que je veux croire que, devant la statue de Nabucodonosor, il devait y en avoir quelques-uns qui se disent « Ouais, il abuse, là, quand même, franchement, c'en est trop. C'est pas lui le dieu, c'est les autres, là. Ça pourrait être ça, hein. » Mais là, belle hypocrisie. Tout le monde se conforme, des petits moutons. Mais les compagnons de Daniel, ce matin-là, pour nous aujourd'hui surtout, nous enseignent et nous invitent à avoir un même cœur, comme eux. À avoir, ce qu'on peut appeler comme ça, cette trempe-là. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut être une forte tête, ça n'a rien à voir. Les fortes têtes peuvent se planter aussi et être de beaux hypocrites. C'est dans le cœur, c'est au plus profond de nous-mêmes. À ce cœur n'adorant que Dieu, ne laissant aucune autre place que lui. À ce cœur qu'on peut qualifier de debout, qui ne fléchit pas, qui ne se prosterne pas, qui ne fait pas de concessions, à cette résistance face au mal, qui s'acharne dans nos vies, voire même, et peut-être plus encore, parce que c'est plus souvent celui-là que nous rencontrons, voire même face au mal qui nous habite, à cette inclination au péché. Oui, Dieu veut nous tenir debout, veut nous tenir droit. Dans notre cœur, hein. Pas besoin d'être debout sur nos jambes pour cela. Et nous assure dans le même temps qu'il sera avec nous dans l'épreuve pour faire face aux conséquences éventuelles qui viendraient. Avec cette promesse telle que Paul d'ailleurs l'exprime lui en 1 Corinthiens 10, verset 13, Dieu ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Je pense que c'est un verset que beaucoup nous connaissons. Et je crois que ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu, c'est cela. Bon, ils ont été sauvés. Mais là, Dieu n'a pas permis qu'ils soient mis à l'épreuve au-delà de leurs forces. Et pourtant, l'épreuve était énorme. Autrement dit, Dieu leur avait donné beaucoup de force ce jour-là. Notez encore une chose importante. Ce récit n'est pas un appel, surtout pas, ne le voyez pas comme ça, un appel à devenir des super-héros de la foi, à la façon des compagnons de Daniel. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit des super-héros. Ils n'ont rien fait par eux-mêmes. C'est Dieu qui leur a donné la force et c'est Dieu qui était avec eux quand l'épreuve était brûlante. Désolé pour le jeu de mots, hein. Mais ça dit ce que c'était. Oui, cela n'est pas un appel à s'imaginer, à rechercher, à devenir des super-héros de la foi, à la façon de Shadrach, Meshach et Abednego, où nous serions capables spontanément et dans des situations extrêmes de relever ce type de défi. On ne va pas aller s'attaquer ou aller faire face à des fous furieux en disant « Non !» Ce n'est pas là que ça doit commencer. Au pire, si Dieu veut que nous soyons face à des personnages aussi fous que ce roi-là, il vous aura placé là. Je vous rappelle, celui qui avait placé là Shadrach, Meshach et Abednego pour être pratiquement dans l'intimité de ce roi et de ce fou, c'est bien sûr Dieu, mais c'est ce roi qui les a nommés là. Il a reconnu en eux des qualités, il les a placés là. Ce n'était pas forcément une chance pour eux de savoir qu'ils allaient être en présence d'un fou furieux. Et ils savaient que là, il leur fallait l'appui de Dieu pour occuper cette place. Mais pour nous, qui n'avons pas forcément besoin d'être face à un tyran tous les jours, quoique, peut-être votre patron, c'est le cas, je ne sais pas. Vous verrez avec lui, priez pour lui surtout, avant tout. Revenons dans peut-être notre quotidien. Je crois plus volontiers que ce récit nous invite à relever les défis que Dieu permet dans nos vies. Non pas d'aller braver, comme je vous l'ai dit, la plus haute autorité du pays pour commencer, mais à pratiquer la justice fidèlement à mon échelle. Même si peut-être je fais face à des gens humbles, je dois là déjà pratiquer la justice. Ne pas fléchir le genou contre quelque chose, mais demander de tordre cette justice. À renoncer d'abord même à nos petits bricolages dans notre existence. Oui, mais on va le faire comme ça. Bon, bref, on bidouille. À nos petites entourloupes, à nos petites soumissions, etc., etc. Petit à petit, Dieu, par l'aide de son Esprit Saint, veut et désire continuer de transformer non pas seulement nos pensées. Ah, maintenant, je pense comme un gentil, j'exagère. Hein. Mais tout notre être qu'il veut transformer, y compris notre caractère. La chose que très souvent l'on croit impossible d'être transformé. Je suis un homme, je prends un exemple. N'allez pas voir que je parle de moi absolument là. Imaginons que je suis un homme qui m'emporte très facilement, qui me met en colère très souvent. Je ne rends pas gloire à Dieu forcément quand je serai comme cela. Mais de croire que Dieu ne peut pas me transformer, adoucir mon caractère, pour plus que je m'emporte pour un rien, ce serait manquer de foi. Oui, Dieu veut nous transformer petit à petit, forger un cœur nouveau. Forger un cœur qui, quelque part, trouve l'assurance de la foi grâce à lui. Il veut nous transformer, y compris notre caractère, pour vivre et discerner selon sa volonté au quotidien, là où quelque part sont les épreuves. Et pas lorsque, par exemple, comment il s'appelle déjà, Kim Jong-il, ce bonhomme que tout le monde regarde avec mépris parce que, bon, on voit en lui uniquement, et c'est très certainement le cas, un fou furieux, une espèce de Nabucodonosor moderne. Peu d'entre nous vont avoir l'occasion un de ces jours de lui serrer la main à ce personnage-là. Par contre, il y a de grandes chances que tous les jours je serve la main d'un collègue que je n'aime pas beaucoup et que je le fasse avec beaucoup d'hypocrisie. Salut ! Voilà, c'est plutôt ça qu'on risque de vivre, nous. Bref. Bon, si vous venez à serrer la main de Kim Jong-il, priez beaucoup hein, avant d'aller le voir parce que pas facile le bonhomme, je crois. Mais priez tout autant pour les personnes que vous venez à rencontrer dans votre vie et avec qui vous sentez que votre foi est éprouvée. Souhaitez son bien. Souhaitez que peut-être Dieu vous transforme pour vous savoir être dans sa présence et de savoir honorer Dieu, de savoir témoigner de l'amour, bref. Tout un programme, hein, même pour mon cher collègue d'à côté, de celui qui me pourrit la vie, de celui qui range pas bien sa chaise à chaque fois quand je viens après lui, bon bref, j'en sais rien, hein. Voyez comme chez vous. Chers frères et sœurs, ce qui nous grandit ou nous rend plus forts dans la perspective de la grâce divine, c'est tout ce qui se passe quand précisément nous sommes petits. Et la transformation profonde de notre être, de notre caractère, de celui qu'on croit impossible de varier et de changer, se vit dans la succession progressive à la fois d'actes justes, d'actes de courage, qu'on choisit d'accomplir dans le concret de nos journées, grâce et avec l'aide de Dieu. Pas parce que je crois que je suis fort, ça marche pas. À chaque fois, on se plante tôt ou tard. C'est en somme tous ces petits oui ou ces petits non dans l'existence qui nous construisent et qui finissent par imprimer en nous non plus ce caractère indéfectible qu'est le mien et que je n'imagine pas trop changer car c'est impossible, mais d'imprimer en nous le caractère de Dieu par le travail de son esprit en nous. Car Shadrach, Meshach et Abednego, je crois dans cet instant-là, avaient ce qu'on peut qualifier d'une certaine manière le caractère de Dieu, ce cœur droit. Ce cœur qui ne fait plus de concessions, qui ne cherche pas à remettre en cause la chose ou trouver un argument pour passer à côté. Surtout ce cœur qui, face à l'épreuve, reste fidèle à Dieu, ne doute pas de lui. Ils ne doutent pas, mais ils ne savent pas. Et il y a une grande différence. Et c'est ça qui me surprend toujours dans ce récit-là. Ils ne doutent pas que Dieu sera toujours à leur côté. Ils ne doutent pas que Dieu peut les sauver. Mais ils ne savent pas ce que Dieu a prévu pour eux. Je suis sûr, moi, qu'ils ne savaient pas que Dieu serait... Il est question d'un ange. C'est ce que croit voir Nabuchodonosor. Je ne pense pas que sa vue et sa compréhension des choses soient suffisamment éclairées. Il est difficile de jouer là-dessus, de parler, mais je veux croire, moi, que c'était Dieu lui-même qui s'est fait présent. Parce que Christ est parfois appelé l'ange de Dieu. Est-ce Christ qui est là? Allez savoir, on ne va pas discuter sur cela. Mais Dieu, dans l'épreuve, sera et est à côté d'eux. Là, il se manifeste même physiquement, d'une certaine manière. Je veux m'arrêter là et conclure là-dessus par cette parole. Mais que le Seigneur nous aide sur nos chemins, dans nos vies, dans nos contextes, à vivre cette dimension de fidélité, cette recherche constante de la justice du royaume dans nos vies, autour de nous, avec ceux qu'il a placés autour de nous, au cœur même de l'épreuve, que ce soit une épreuve extérieure qui cherche à me faire du mal ou pas, ou que ce soit une épreuve intérieure, y compris même la maladie. Il est celui, et attachez-vous à cela, il est celui qui se tiendra avec vous, debout à vos côtés, y compris dans la fournaise, y compris quand l'épreuve sera encore plus violente et dure. Oui, c'est ce Dieu-là qui est celui de Daniel, de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, et il est toujours le même. Il est ce Dieu-là dans votre vie aussi. Ce Dieu-là que nous désirons servir, comme ont désiré le faire Shadrach, Meshach et Abednego. Il leur a été proposé deux choses. Servez-moi, moi, votre roi, et pliez le genou. Ou pour eux, ils ont compris cela, nous préférons servir notre Dieu. Et à ce moment-là, ne pas plier le genou. Ce n'était pas évident. Mais Dieu leur a donné la force de savoir dire ce qui était juste aux yeux de Dieu. Et impossible pour eux, je crois. Peut-être prenons un instant pour nous recueillir chacun. Seigneur, nous voulons encore ce matin nous en remettre à toi, de te dire que nous nous savons encore faibles dans tel et tel sujet, dans telle et telle situation, que nous vivons encore des épreuves, Les épreuves qui touchent à notre foi, à cette foi que tu nous as donnée, à cette foi que nous voulons voir grandir en nous par ton œuvre. Et Seigneur, nous voulons plus encore, ce matin, pour les jours à venir, pour les mois, les années à venir, trouver la sagesse de savoir nous appuyer sur toi et uniquement sur toi. De savoir te faire plus encore confiance quand l'épreuve viendra à nouveau. Ou si l'épreuve est déjà là. Seigneur, oui, que ce soit toi notre force. Que tu puisses nous aider à trouver la persévérance, le courage d'être debout, tout du moins dans notre cœur, si notre corps ne nous le permet pas. Et Seigneur, ce matin, nous voulons aussi penser justement à nos frères et sœurs qui, peut-être par la maladie, se trouvent affectés dans leur corps, mais se trouvent aussi certainement affectés dans leur foi. À parfois défaillir, à parfois douter, à se sentir seul. Seigneur, que tu puisses, toi, comme ce fut le cas pour Shadrach, Meshach et Abednego, te tenir à leur côté, de dire que tu es présent pour eux, que tu puisses leur donner cette foi, ce cœur indéfectible, qui, dans l'épreuve, ne doute pas de toi, ne doute pas de ta présence aux côtés de chacun d'entre nous. Seigneur, oui, tu es notre appui, tu es notre souverain, tu es notre Dieu et Créateur. Oui, et c'est dans le nom de ton Fils Jésus, lui notre Seigneur, lui notre Sauveur, que nous te prions là. Amen.
Merci pour